France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
À partir de quand est-on vieux ? Quels sont les critères physiques, sociologiques, psychologiques ? Est-ce qu'on peut être vieux dans sa tête quand on a 20 ans et jeune à 70 quand on pète le feu ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est si grave d'être vieux ? Est-ce que c'est une maladie, un handicap, une honte ? Laura Adler, l'autrice et journaliste, par exemple, elle s'en fiche. Elle est vieille et elle assume, pour ne pas dire, elle est vieille et elle vous emmerde, comme elle l'a déclaré dans un journal. Elle a même lancé une chaîne dédiée aux seniors sur YouTube qui s'appelle Télévioc. Une chaîne faite par les vieux et pour les vieux. Sauf que sur le marché de l'emploi, comme on dit, sans même parler du marché de l'amour, et surtout quand on n'est pas Laura Adler ni Catherine Deneuve, c'est là que ça se corse. En 2024, 60,4% des seniors, c'est-à-dire des personnes âgées de 55 à 64 ans selon l'INSEE, avaient un emploi, contre 82,8% des 25 à 49 ans. Et dans certaines filières, on devient senior à 45 ans, et c'est là que ça devient chaud. Vous coûtez cher, vous avez de l'expérience, donc vous n'êtes plus si corvéable, vous avez des idées, donc vous n'êtes plus si malléable, du moins c'est ce qu'on se figure, et évidemment, on se trompe souvent. Aujourd'hui donc, c'est l'histoire de trois personnes qui découvrent soudain qu'elles sont vieilles, et alors qu'elles pourraient se réjouir de cette sagesse accumulée, en réalité, ça n'est pas très agréable. Un reportage de Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Gwenaëlle Chauvin, 55 ans, en recherche d'emploi depuis un peu plus d'un an. Je suis née en Bretagne. Après mon bac, j'ai passé un BTS tourisme à Brest où je m'ennuyais profondément. Donc j'ai quitté la France pour partir en Angleterre. J'avais pas beaucoup d'ambition professionnelle. J'avais juste envie d'apprendre et de maîtriser une langue étrangère en espérant parcourir le monde. Quand je suis revenue d'Angleterre, je suis arrivée à Paris. Les premiers postes que j'ai occupés, c'était des postes de vendeuse. Après, j'ai quitté Paris, je suis arrivée sur Toulouse. Là, j'ai été commerciale pour une boîte de radio-télécom avant que le téléphone portable existe. Mais la boîte, elle a fermé. C'est là que j'ai créé ma première boîte. C'était dans les années 2005-2007, une société d'édition de cartes postales. Mais on s'est pris un énorme impayé qui a fait que notre trésorerie n'a pas tenu. Donc, licenciement économique. Suite à cet échec, j'ai repris mes études. J'ai passé un diplôme de gestionnaire de PME-PMI. Et ma vie personnelle a fait que j'ai rencontré Annie, une personne qui, avec les odeurs, est capable de créer un parfum, qui a monté une boîte. Et j'ai commencé à l'accompagner discrètement, puis de plus en plus implicitement, et donc à la développer. Donc retour à l'entrepreneuriat, même si c'est mon ex-conjoint qui dirigeait la boîte, je co-gérais avec lui et je participais à tous les développements. L'aventure a commencé en 2010 et s'est arrêtée il y a maintenant 3 ans. Donc là, j'ai 52 ans. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me pose et que je visualise ma fin de carrière. J'ai vraiment commencé à paniquer parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui se profilait sur les annonces, juillet, août qui arrivaient. Déjà, je me rendais compte quand même que la température extérieure pour les demandeurs d'emploi de mon âge, c'était pas trop confortable. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'emploi territorial sur la région toulousaine qui a lancé une énorme opération de former des secrétaires de mairie. Je me suis dit, pourquoi pas intégrer ce programme. J'ai passé un test, je l'ai complètement foiré. La personne qui m'avait reçu en entretien n'a pas compris mes résultats. Elle m'a fait comprendre que je n'avais pas du tout le profil d'une secrétaire de mairie. Par contre, elle avait un poste de chargée de communication et de culture à me proposer dans une mairie. C'était un contrat de 2 mois. Pour remplacer une personne qui était en arrêt maladie. J'ai dit oui. Il s'avère que de 2 mois, ce contrat s'est transformé en 1 an. On m'a laissé plus ou moins entendre qu'il y avait possibilité de m'ouvrir un poste. Puis à un moment donné, pas responsable, commence à me faire comprendre que la personne que vous remplacez va peut-être venir, on ne sait pas. Et là, vous essayez d'y voir un peu plus clair et vous n'avez pas de réponse. Une semaine après, on vous donne un rendez-vous et on vous fait comprendre que ça va s'arrêter là. Éventuellement, possibilité de rester un mois de plus, le temps que la personne reprenne ses marques. L'histoire s'est terminée. En une semaine. Donc j'ai travaillé plus d'un an avec 5 CDD et puis ça s'arrête net. Moralement, ça a été extrêmement compliqué. Parce que là, j'avais l'impression de me reconstruire. Donc, c'est extrêmement violent. Donc, je suis venue me ressourcer en Bretagne. J'ai commencé à écrire à mon réseau pour les informer. Je crois que j'ai paniqué plus vite que là encore la première fois parce que le réseau a presque été inactif. Enfin, il n'y avait pas de vraie réponse. Et là, on vous dit, oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais t'inquiète pas, tu es une guerrière, tu vas rebondir, tu es solaire. Des phrases qui sont super agréables à entendre, mais ce sont que des phrases d'encouragement où il n'y a pas, tiens, je vais prendre rendez-vous avec un tel, tu pourrais rencontrer un tel. Il n'y a rien de concret, il y a de très jolis mots, et il n'y a rien. Et c'est là que je suis rentrée sur le réseau LinkedIn, où je me suis dit, agrandis ton réseau. Ça, c'est fin septembre 2024, si je ne me trompe pas. Oui, puisque ça fait un an que je recherche, un peu plus d'un an que je recherche. Donc il existe plein de petites plateformes sur lesquelles on inscrit notre profil, nos choix. Sur certaines, je marquais chargée de com, sur d'autres, je mettais vendeuse, sur d'autres, je mettais commerciale, sur d'autres, je mettais secrétaire administrative. Et je répondais donc à toutes les offres qu'on m'envoyait. À peu près entre 3 et 4 CV par jour. Pendant un an, le bilan, c'est un peu plus de 1500 CV, à quelques dizaines près. J'ai des retours, mais négatifs. Comme on n'a pas les entretiens, on ne sait pas ce qui nous manque. On ne sait pas ce qui fait peur. On ne sait pas ce qui est moins, ce qui est plus. Enfin bref, on ne sait rien. Puis à un moment donné, sur les propos, sur les échanges que j'ai vus sur LinkedIn, vous voyez, plus de 45 ans, senior. Là, c'est un énorme choc. Pour moi, un senior, c'était ma maman. Rien que le mot, je me disais, mais je ne suis pas concernée. C'est extrêmement violent. Vous êtes vieux à 45 ans. Donc, on essaye de tricher, de ne plus faire apparaître notre âge, de reprendre notre parcours professionnel qu'à partir des années 2000 en disant comme ça, peut-être que ça va les perturber. Voilà. Puis à un moment donné, je reprends la bonne vieille méthode des années 90, c'est-à-dire qu'on apporte le trottoir, je vais traverser la rue pour trouver un emploi et regarder sur les vitrines où il y avait toutes ces annonces. Voilà. Ça n'a rien donné non plus. Très vite, financièrement, c'est super compliqué. On serre la ceinture. À l'époque, j'étais indemnisée 1000 euros. J'ai 800 euros de charges fixes. Et j'ai deux enfants. Mon fils, donc âgé de 23 ans, a terminé ses études et a été embauché de suite. Donc, je le considère plus à ma charge. Par contre, ma fille est étudiante. À ce moment-là, j'essayais encore de l'aider financièrement. Donc, là, je mise tout sur mon dernier entretien à passer. Je me dis, si je n'ai pas le job, avant de m'endetter sérieusement, en dehors de ma famille, je quitte Toulouse et je rentre chez maman. La réponse a été négative, j'ai terminé deuxième dans ce recrutement. J'ai appelé ma maman en lui disant, voilà, j'arrête et je reviens. Quand j'ai pris la décision, donc les cartons, ben il a fallu les faire. Et là, j'ai commencé à écouter des vieux CD. Je suis tombée sur une chanson de Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est fini. Et là, je me suis effondrée dans mes cartons, sur mon escalier. Je me suis sentie honteuse. Vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes potes, vis-à-vis de moi. Un énorme sentiment d'échec. Je ne reproche pas à la société, je ne reproche pas aux dirigeants, je ne reproche... C'est juste moi qui ai échoué. D'un seul coup, je remets toute ma vie en question et tous mes choix. Et tout se mélange dans ma tête. C'était un jeudi matin, fin septembre. Je prends mon téléphone, LinkedIn, et je poste. Voilà, c'est fini. Je rentre chez maman à 55 ans. Je vis cette décision comme un échec et non pas comme une renaissance. Ainsi, on va éviter les commentaires « tu vas rebondir, tu es une guerrière ». Être au chômage n'est pas un luxe de paresseuse assistée qui refuse de travailler. J'ai pas su convaincre lors de mes entretiens, j'ai pas su provoquer de rencontres lors de mes candidatures, j'ai pas le bon profil. Je ne cherche pas de coupable à ma situation. Nous pouvons tous être concernés par la précarité et devenir des tanguis à 55 ans. J'écris ce post un jeudi, un ami me like et me dit « tu as osé ?» Je lui dis « oui, je suis désolée, peut-être qu'il faut que je le retire parce que c'est pas le lieu, c'est pas la plateforme pour mettre ses sentiments et sa précarité à nu. Normalement, on est plutôt dans genre « je suis belle, je suis dynamique, j'ai quitté mon job, youpla boum, mais j'y crois. » Et moi j'annonce « voilà, je suis précaire à 55 ans. » Un quart d'heure après, il me rappelle, il me fait « regarde le nombre de vues que tu as. » Et là, tout s'emballe. J'ai reçu énormément de messages. Et beaucoup de commentaires de gens qui me disent « je suis comme vous ». Les gens se dévoilent et m'expliquent ce qu'ils sont en train de vivre. Et il est republié, et republié. Voilà, les médias commencent à me regarder. Marie-Claire me contacte, c'est le premier grand média. Et l'article du Monde, sur ma quête, sur mon histoire perso et autour des femmes de plus de 45 ans qui ne retrouvaient pas un emploi. On les appelle les nerfs. Nerfs, c'est ni en emploi, ni en retraite. Cet article, a priori, a fait du bruit aussi. Plein de personnes se sont reconnues. De cet article du Monde, je reçois l'invitation de Monsieur David Pujadas pour participer à LCI. Voilà comment je suis médiatisée autour d'une précarité et d'une recherche d'emploi. David Gallienne, qui est le chef cuistot qui a gagné Top Chef, m'a laissé entendre qu'éventuellement dans la restauration, peut-être comme je pourrais trouver un emploi. Voilà, des rencontres, mais pour l'instant ce ne sont que des échanges, rien de concret. Aujourd'hui, je vis chez ma maman, la cohabitation se passe super bien, j'ai de nouveau 15 ans, c'est-à-dire qu'elle me gronde quand je suis pas à midi à table, et que je peux prendre soin d'elle, refaire des activités avec elle, mais je touche 180 euros, il est hors de question que ma maman continue de me donner mon argent de poche, donc il me faut un emploi. La semaine prochaine, je vais chausser une paire de baskets, enfiler un jogging, je vais courir avec des futurs employeurs et des demandeurs d'emploi de façon anonyme. Je ne sais pas ce que ça peut donner. On nous met dans des situations un peu compliquées. Moi, je n'ai jamais eu la posture d'arriver en jogging à mon emploi. Donc, de me présenter comme ça, ce n'est pas forcément ce que je trouve de plus flatteur. De lancer la baballe non plus avec mon futur employeur, j'ai un peu de mal. Je vais le faire, puisque France Travail le préconise. Donc, voilà ce que l'on vit aujourd'hui comme demandeur d'emploi, les propositions d'ateliers qu'on nous propose. Depuis le post LinkedIn, j'échange énormément avec des gens qui sont dans ma situation. Donc, je continue d'espérer d'avoir un emploi qui me plaise. Parce que la notion de plaisir dans le travail est hyper importante pour moi. Maintenant, je suis précaire. Il est clair que je suis prête à prendre presque n'importe quoi. Est-ce que j'ai vraiment le choix ?
Je m'appelle Benjamin Vandling, j'ai 53 ans, je vis à Vincennes en région parisienne et je suis l'heureux de papa d'une tribu de 5 filles qui s'échelonne de 3 ans à 28 ans, avec 3 mamans différentes. Et je dirige une agence conseil RH qui est spécialisée dans l'accompagnement des talents expérimentés, des plus de 45 ans. J'ai fait une prépa HEC et ensuite une école de commerce. Et puis après, j'ai eu un parcours salarié très court, en début de carrière, 2 ans, avant de créer mes propres activités, mes propres sociétés. Pendant plus de 20 ans, j'ai créé 6 sociétés. Voilà. Il y a de ça 8 ans maintenant, j'ai dû fermer la société que j'avais en France, suite à un incident de paiement d'un de mes plus gros clients. Et suite à cette liquidation de société, j'ai divorcé. Deuxième turbulence qui était compliquée à gérer. Et dans la foulée de ce divorce, en fait, on m'a décelé une tumeur au cerveau. Donc j'ai eu des problèmes de santé, que j'ai toujours d'ailleurs, assez importants. Donc les éléments se sont enchaînés et ont fait qu'effectivement, j'ai dû arrêter mon activité et j'ai décidé de partir à Londres pour mettre de la distance avec tout ce qui m'arrivait et me reconstruire, en fait, dans une ville loin de Paris, alors loin, pas si loin que ça, parce que mes gardes d'enfants faisaient que je pouvais voir mes enfants un week-end sur deux. Paris-Londres, c'est pas très loin en Eurostar. Mais voilà pourquoi je suis parti à Londres, en fait. À l'époque, j'avais 38 ans. Je suis parti sans boulot, parce que de toute façon, mon état de santé me permettait pas vraiment de travailler à ce moment-là. Et quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le droit aux indemnités France Travail. Mais par contre, on peut souscrire une assurance chômage privée pour les chefs d'entreprise. Et finalement, heureusement que j'avais ce filet de sécurité. Sinon, ma situation, qui était déjà compliquée, aurait été encore plus inconfortable. Après 2 ans où j'ai quasiment pas travaillé, j'ai remonté une agence de communication. Et puis, j'ai fait du conseil en stratégie pour des TPE. Ça a fonctionné au bout d'un an et demi, à peu près. J'avais 5 salariés. Et il y a 5 ans de ça, donc la crise du Covid arrive en Europe. Donc je m'aperçois rapidement que je pourrais plus faire les allers-retours aussi facilement entre Londres et Paris. Et donc je choisis de rentrer en France. Et une fois arrivé en France, en fait, j'ai eu une vraie période de doute. J'avais réussi à me reconstruire en Angleterre et je me retrouve dans une période où je me pose la question de savoir est-ce que j'aurai l'énergie de remonter une activité, est-ce que je vais chercher du travail. Et pour des raisons personnelles, parce qu'à ce moment-là, j'allais avoir des enfants en bas âge, j'ai fait le choix, en fait, de rechercher du travail. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert que j'étais vieux. J'avais 48 ans à l'époque et je me suis aperçu en cherchant du travail en France que mon âge était un vrai sujet tabou pour les recruteurs. 48 ans à Londres, je suis pas vieux, je suis plutôt jeune, je suis plutôt dans le coup, j'ai monté une activité et 2h30 d'Eurostar plus tard, j'arrive à la gare du Nord et là j'ai pris 10 ans. Je le comprends très vite en fait parce que j'ai envoyé en 3 mois un peu plus de 250 candidatures. Soit en réponse d'annonce, soit candidature spontanée. Et très souvent, j'étais ghosté par le recruteur, donc pas de réponse. Ou sinon, on me faisait comprendre qu'on me répondait que j'avais trop d'expérience. Et la dernière expression qui, pour moi, était la moins polissée, mais finalement la plus honnête, on me disait qu'on recherchait un collaborateur junior, plus junior que moi. Je me suis inscrit pour mon accompagnement pour retrouver du travail à l'APEC et à France Travail. Et je me rappelle du conseil d'un conseiller APEC qui m'a dit « Mais monsieur Vandeling, ne répondez pas aux annonces. Aucune annonce s'adresse à des personnes qui ont plus de 45 ou plus de 50 ans. » J'étais très surpris de cette remarque-là. Et j'ai heureusement, dans mon accompagnement, finalement, eu la chance de rencontrer un conseiller chez France Travail qui était top et qui, en fait, avait mon âge. Et c'est ce qui fait que il pouvait avoir beaucoup d'empathie pour m'accompagner et comprendre ma situation. Et finalement, cette personne-là m'a redonné confiance. Et quand j'étais ghosté ou quand j'étais refusé par des recruteurs quand je recherchais du travail, j'ai eu la curiosité de regarder les profils des recruteurs auxquels j'avais affaire sur LinkedIn. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais affaire qu'à des personnes très juniors, hein, qui avaient peut-être 27, 28 ans, qui est aujourd'hui la moyenne d'âge des recruteurs en France. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet, en fait. C'est comme si ma plus grande fille, Julia, qui a 28 ans, me recrutait après un parcours opérationnel très court ou à la sortie de la fac. J'ai cherché, mais de façon intensive, hein, pendant 9 mois, en envoyant beaucoup de candidatures. Et finalement, le retour en France et avec cette confrontation à cette discrimination liée à mon âge sur le marché du travail, ça m'a un peu replongé dans une période de doute et de turbulence. J'ai décidé de changer de posture vis-à-vis des recruteurs. Quand j'ai compris que là, j'étais un sujet tabou, en fait, je me suis dit, mais plutôt qu'en faire un angle mort, ça va être mon point d'attaque, mon point d'entrée. Et je me suis présenté aux recruteurs en disant, je suis un vieux singe enjoué. C'est l'expression que j'ai utilisée. Et voilà mon parcours. Et finalement, en abordant le sujet de front, j'ai rapidement, en fait, décroché des entretiens. Et je rejoins un gros groupe de recrutement qui est le groupe actuel. Mon niveau de vie n'avait rien à voir avec mon niveau de vie précédent. Je voulais retravailler en équipe rapidement. Donc j'étais prêt à accepter un salaire moindre par rapport à ce que j'avais pu percevoir avant comme rémunération. Et après donc ces 2 ans passés dans cette fonction de directeur du développement commercial au sein du groupe actuel, j'ai décidé de mettre fin à cette expérience professionnelle début 2023, parce que je tournais en rond dans les responsabilités qui m'étaient données, et j'ai fondé les Vieux Singes en début d'année 2024. L'objectif des Vieux Singes, c'est d'accompagner les talents expérimentés, donc on entend par talents expérimentés les actifs qui ont plus de 45 ans sur le marché du travail en France, soit pour un retour à l'emploi, soit pour rester en emploi, soit pour garder du sens dans ce qu'on fait quand on est en poste. j'appelle toujours les talents expérimentés. J'essaye de pas utiliser le terme senior qui est stigmatisant en France, qu'en face de senior, on met plutôt retraité, alors que dans les pays anglo-saxons, on met expérience en face. Aujourd'hui, donc, j'ai pas peur de perdre mon travail. La thématique qu'on adresse avec les vieux singes, elle est d'actualité, elle va l'être de plus en plus. En 2030, un actif sur trois aura plus de 50 ans en France. Donc non, je n'ai pas de souci pour l'avenir, je suis plutôt très confiant sur notre activité. C'est vrai qu'en lançant les vieux singes, je me suis aperçu que le problème était plus important que ce que je percevais. J'avais pas notion du niveau de discrimination que pouvaient subir les plus de 45 ou les plus de 50 ans en France sur le marché du travail.
Je m'appelle Cécile Molin, j'habite Paris, je suis mère de famille. J'ai deux enfants qui ont 24 et 19 ans et j'ai plus de 50 ans. Je suis manager de transition depuis plus de 20 ans. Quand une société m'appelle en général, c'est parce qu'elle perd du chiffre d'affaires. Le but de mon travail, c'est d'être DG, directrice générale, en attente de trouver la bonne personne qui pourra piloter l'entreprise. On essaye de remettre la société à flot parce que derrière, il y a des emplois. Je suis là pour ça. Après mon bac, je suis partie aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai fait une grande université. J'ai fait du marketing et de la communication et de l'économie internationale. En parallèle, pour payer mes études, j'ai travaillé pour un très grand groupe de cosmétiques. Et après, je suis devenue DG de ce grand groupe de cosmétiques. Après, j'ai décidé de mettre un petit peu de frein pour pouvoir vivre un peu. J'ai fait mes enfants, tout simplement. Et quand j'ai voulu revenir sur le marché français, j'ai été manager de transition. Et pendant 20 ans, ça a été mon activité, ça s'est très bien passé. J'ai un beau niveau de vie parce que je travaille énormément. Je vis dans une maison en région parisienne, dans un joli endroit. Mes enfants vont en école privée, on voyage. Voilà, mon niveau de vie est confortable, bien sûr. En 2025, je suis contactée par une association qui faisait de l'inclusion au niveau professionnel et au niveau éducatif, c'est-à-dire au niveau des jeunes qui font partie des quartiers prioritaires. Je me suis dit à un moment donné, pourquoi ne pas apporter à une association ce que je sais faire ? Et je commence ce nouveau poste en mars 2025. Lorsque j'ai pris ce poste, c'était pour moi un poste social, donc je le savais très bien, qu'on divise par trois le salaire. Donc oui, ça change. J'ai toujours mon collègue qui est avec moi, qui a dirigé la structure pendant 15 ans, qui est là, et qui me transmet les dossiers, ça se passe hyper bien. Et puis un jour, le jour de mon premier conseil d'administration, quelque chose de violent arrive. Je vais préparer mon plan de financement, mon plan stratégique à court terme. Et en début d'après-midi, à 14h, j'ai eu le président et un administrateur qui est venu dans mon bureau. Il a fermé la porte de mon bureau. Et en fait, il m'a souscrit, m'a mis à pied. Ça m'a énormément choquée. Et je ne peux pas dire quel est le motif. Parce qu'on est en procédure, mais la mise à pied, elle est d'une violence énorme. C'est la première fois en 20 ans que j'ai ça. Il n'y a pas eu d'amont, il n'y a pas eu d'alerte. Quand vous voulez mettre un salarié à pied, il y a des contrôles à faire. Quand vous êtes directrice générale, c'est sans contrôle. Le jour même, je signe une démission. On me pousse à la démission. Mais je suis tellement choquée ce jour-là, la sidération. Je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Et même moi, en tant que DG, sidérée. Et en fait, on m'a mis dehors comme une malpropre. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, impossible de me lever. Pendant tout le week-end, impossible de me lever. Puis à un moment donné, mon fils a pris rendez-vous chez le médecin, donc j'ai été chez le médecin. Et le médecin m'a dit, vous avez pris un électrochoc et puis burn-out, quoi. Fatigue. Et donc là, je reste 10 jours, en fait, enfermée. Et je me repasse en boucle, mais qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de ce moment-là, je me retrouve en fait dans une situation administrative de dingue que j'aurais jamais imaginée. Il me reste mon dernier salaire, plus un peu d'argent que j'ai de ma transition. Je suis maman solo, deux enfants qui font des études. J'ai un loyer à payer et pas de famille autour de moi. Et je demande mon droit anticipé à l'ouverture de mes droits au chômage. Et comme j'ai démissionné, j'ai signé un papier, j'ai démissionné, mais sous contrainte, et ben ça stoppe tout. On me dit non. On me dit, madame, vous pourrez redemander 3 mois après. Rapprochez-vous de la CAF. Je me rapproche de la CAF et là, on me dit, vous avez trop gagné votre vie, vous attendrez dans 3 mois. Puis en plus, j'ai une deuxième problématique, c'est que ma propriétaire vient de décéder. On est fin mai, début juin. Depuis janvier, je sais que mon logement, je dois le quitter avant fin août 2025. Mais sans salaire, sans droit au chômage, en fait, ben, je ne peux plus louer. Ensuite, la première chose que je fais, c'est que je réactive mon réseau. Et je décide de faire un post sur LinkedIn. Tuto de comment se retrouver en 30 jours SDF. Énormément de succès. J'ai des gens qui me contactent, soi-disant, ils ont du travail. Mais en fait, j'échange avec eux, c'est plutôt des curieux, et il ne se passe rien. Et puis ça reste comme ça. Septembre arrive, il ne se passe rien, j'ai une députée qui a vu mon poste, et je la rencontre, une femme absolument charmante qui essaye de faire des pieds et des mains pour que les choses se déclenchent, parce que qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment vous allez faire? Et puis un fameux député, qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui est actif, prend mon dossier entre les mains, et qui, dans sa ville, me permet d'avoir un logement, d'être sécurisée avec mon fils. Donc, on m'accorde un studio duplex. Pas gratuit, hein. Je paye. Et au moins, on a un endroit chaud. J'ai postulé depuis juin, début juin, 1500 offres. Beaucoup de retours automatiques. Quelques rendez-vous, mais on ne revient pas vers vous. Après les rendez-vous. Quand j'ai des retours et qu'on vous dit « malgré la qualité de votre parcours, vous ne correspondez pas », en général, je renvoie un message en demandant « qu'est-ce qui ne correspond pas pour pouvoir m'adapter ?» On ne me répond pas. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'en 3 mois, on peut se retrouver très vite à la rue, sans rien, en France, en 2025. Et que le taux de précarité est devenu exponentiel. Et en fait, c'est notre système qui fabrique la précarité. J'en suis la preuve. Et je ne suis pas la seule. Mon quotidien, c'est à tout prix rechercher un travail. Je veux un travail qui correspond à mon parcours quand même. Ce n'est pas parce qu'il vous arrive une mésaventure que ça ne vous permet pas de redémarrer. Ben, j'espère que dans 3 mois, j'aurai retrouvé du travail et j'y crois. Go down and go down and stay down. Go down and go down and stay down. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking up big rocks on a chain gang. 'Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Ooh, rigging it, oh, to get it. Been working, I've been working.
C'était « J'ai découvert que j'étais vieux », un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Éric Lancien. Merci à Gwenaël Chauvin, à Benjamin Wendling, à Cécile Molin et à Karine. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel.
I've been working, but I got me so terrible long ago. I heard a judge say 5 years of labor, to the chain gang you got to go. I heard a judge say 5 years of labor. I heard my one scream, Lord, and no. I heard it steady right there, well, I hit it. Hey! Breaking it, oh, to get it, been working, I've been working, but I got me so till long ago.